Fleur de sel, l'hebdo de l'écologie intégrale, une émission qui parle de la sauvegarde de la maison commune.
Vous êtes le sel de la terre.
Fleur de sel, une émission pour répondre à l'appel du pape François à la conversion écologique.
Si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on ?
Fleur de sel, une émission proposée par le groupe Parole de chrétiens sur l'écologie. Avec cette semaine, Olivier Tempéro.
Chez un couple de crocodiles, il y a bien longtemps. Elle qui rentre du marché. Tu connais pas la nouvelle ? Tu sais, André, l'alligator qui habitait la mangrove, là, eh ben, il est mort hier. Lui. Ben mince, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle. Encore une infection de gencive qui a mal tourné. Tu sais, je me demande si je vais pas l'essayer, moi aussi, la nouvelle méthode. Lui. Grignotant quelques sourires ramenés du marché. Qu'un oiseau, une vulgaire proie, vienne te curer les dents ? Mais ça va pas, non ? Eh ben, et ta dignité ? Elle. C'est pas une histoire de dignité, mais une histoire de survie. Et puis, l'entraide, c'est juste dans ta tête que c'est indigne. Elle sort, en quête d'un oiseau affamé. Bonjour amis auditeurs, nous voici chacun chez soi, avec du temps pour écouter la radio. Alors pour commencer, recevez quelques mots fraternels de la part de toute l'équipe de Fleur de Sel. C'est une joie, particulièrement dans ces jours difficiles, de pouvoir vous rejoindre sur les ondes. Alors lors de ma précédente chronique, je présentais l'émission du jour en disant que nous allions voir à quoi nous invite la perte d'impression de toute puissance. Alors c'était avant l'apparition de l'épidémie actuelle, mais ça tombait à pic, car la perte de l'impression de toute puissance, elle se fait plus palpable chaque jour. Alors à quoi cela nous invite-t-il ? Eh bien ce sera notre sujet du jour. Alors nous avons tous des personnes dans notre entourage, si ce n'est nous-mêmes, qui ont vécu une épreuve. Tout allait bien, et puis un jour l'épreuve arrive. Maladie grave, problème familial, tout s'écroule. Elle tombe bas. Et puis ces personnes, généralement, une fois qu'elles vont mieux, elles se montrent sous un jour différent. Plus humble, plus compréhensive devant les souffrances des autres, plus coopérative. Probablement que chacun peut se reconnaître lui-même ou bien penser à un proche. Et si c'était dans ce processus qu'entrait actuellement notre société tout entière ? Si c'était à l'égoïsme qu'il nous fallait renoncer et à l'entraide, le mot est lâché, qu'il nous fallait consentir pour notre plus grand bien. Un peu comme Madame et Monsieur Crocodile dans le conte introductif. Au passage, l'histoire a donné raison à Madame Crocodile. C'est courant aujourd'hui pour un crocodile d'offrir sa dentition aux oiseaux pour un déparasitage efficace. Bon, j'ai déjà parlé beaucoup de l'entraide, notamment en relayant l'appel du pape François à la conversion communautaire. Mais c'était sur un plan spirituel et humain. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est me baser sur des travaux scientifiques pour montrer que sur ce plan également, l'entraide est incontournable. Et si je sollicite le plan scientifique, c'est pour dynamiter cette impression de naïveté qui flotte toujours dans l'air quand on parle d'entraide. Avant d'aller plus loin, je précise que l'entraide scientifique n'est pas systématiquement un acte moralement bon. On peut s'aider sans altruisme pour assouvir ses besoins, voire pour massacrer un tiers. Malgré tout, au-delà de la science, il y a dans le choix de l'entraide ou de l'égoïsme des implications spirituelles importantes. Pour les quelques minutes de cette chronique, je m'appuie sur le livre « L'entraide, l'autre loi de la jungle » de Pablo Servigne. Livre qui se situe à la croisée de la biologie, de la sociologie, et de l'anthropologie. Alors s'appuyer sur ce livre pour vous dire quoi ? Eh bien d'abord, pour vous dire que nos mythes nous trompent. Servigne propose dès son introduction sa vision d'un puissant mythe installé depuis quelques siècles en Occident. Il écrit : Il était une fois la vie, une arène impitoyable, où des millions de gladiateurs se battaient et s'entretuaient. Pas de cadeau, pas de quartier, pas de pitié. Que le meilleur gagne. Le grand mangeait le petit, le rapide mangeait le lent, le fort mangeait le faible. Et tout ce qu'il va s'évertuer à prouver dans son livre, c'est que la compétition est une des règles du vivant, c'est vrai, mais qu'elle n'est pas la seule, et même qu'elle n'est pas la première. Il écrit en effet, « La compétition n'est qu'un aspect de la loi de la jungle. Il en est un autre qui a une place bien plus grande, l'entraide. » Et il martèle, « La science a rassemblé assez d'arguments pour pouvoir dire ce qui aurait toujours dû rester une consternante banalité. L'entraide est un fait omniprésent dans le monde du vivant. » Et il égrène à longueur de page la liste édifiante des mécanismes du vivant qui impliquent de nombreux degrés d'entraide, bien au-delà du simple échange bien connu de nutriments entre les arbres d'une forêt. Pensez, la cellule, la photosynthèse, la digestion nécessitent de nombreuses formes d'entraide. Et la liste est infinie. Au passage, j'ai coutume de débusquer dans chaque chronique une bizarrerie ordinaire de notre temps. Celle du jour ne fait pas mystère. Avoir intégré un système de croyances tellement éloigné des règles du vivant. Il ne s'agit pas, bien sûr, de nier que le vivant recourt également à l'égoïsme et à la compétition. Mais précisément, la science montre que, lorsque l'environnement est favorable, le vivant tend vers la compétition. Il est donc normal que notre sentiment de toute-puissance qui a prévalu depuis quelques décennies, nous est orienté vers la compétition, et comme l'écrit Servigne, avec l'équivalent de 400 esclaves énergétiques par habitant, il est aisé de dire à son voisin « Je n'ai pas besoin de vous ». Par contre, et c'est là que c'est important, lorsque les conditions de vie se dégradent, le vivant va vers l'entraide. Et où en est-on aujourd'hui ? À quel moment de cette lente glissade sociale, économique et environnementale allons-nous nous reconnaître vulnérables? En tout cas, quand nous aurons enfin consenti à cet aspect vulnérable de nous-mêmes, la science est sans appel. Il nous faudra, de manière absolument rationnelle, passer à l'entraide, car c'est inscrit dans les principes du vivant. Un peu comme une fatalité, Servigne nous propose le schéma cyclique suivant. Par le passé, un monde hostile fait émerger une culture de l'entraide. Cette culture de l'entraide a favorisé la création d'abondance. Ce monde d'abondance a fini par créer une culture de l'égoïsme, et cette culture de l'égoïsme a tout détruit, recréant un monde hostile. Et le cycle peut recommencer. Mais l'histoire n'est pas écrite à l'avance, et pour atténuer le choc à venir, dans un monde de plus en plus menaçant, on est invité à s'y mettre sans tarder et sans retenue. Parce qu'un vieux mythe de plusieurs siècles ne se renverse pas en un jour. La légitimité scientifique de ce livre, mais aussi l'essor de profonds mouvements allant dans ce sens, nous pousse à oser réhabiliter l'altruisme, la bonté, la gentillesse, l'association, l'égalité, les communs, l'empathie ou la solidarité, et à les voir comme les attitudes les plus sérieuses, les plus rationnelles et les plus aptes à faire face aux défis de demain. Pour mettre une note spirituelle, je dois dire que j'ai été touché par un passage dans lequel Servigne décrit comment la vulnérabilité du nouveau-né humain nous a ouvert à l'entraide. La vulnérabilité qui ouvre à l'autre. On est en plein dans la foi chrétienne, le Christ naissant dans le dénuement. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. La semaine prochaine, c'est Jean-Noël qui vous accompagnera pour les 10 petites minutes de l'émission, dans votre semaine de confinement. Quant à moi, je vous retrouve à la toute fin avril. Allez, chers auditeurs, puissions-nous vivre ce temps spécial avec une grande paix intérieure. Bonne semaine à chacun! Thank you.
Thank you.